À bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu. Une émission proposée par Bruno Cyr.
Yves Alibert, bonjour.
Bonjour.
J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce que vous êtes un homme d'affaires très occupé. Et vous avez accepté de consacrer un peu de temps à notre radio pour échanger, d'abord pour nous dire ce que vous faites et ensuite pour échanger sur votre engagement autour de votre foi catholique. Donc, permettez que je vous présente d'abord, vous avez 62 ans, vous avez 6 enfants, ce qui n'est pas très courant dans notre monde actuel, ne serait-ce que pour des problèmes de voiture, par exemple.
Oui.
Vous êtes de la paroisse de Montastruc et vous êtes donc président d'une entreprise qui s'appelle Iré Jardin depuis 2002. Mm-hmm. C'est une entreprise qui fait de la distribution de l'équipement d'arrosage et de spa, donc tout pour le jardin, mais plutôt pas comme Truffaut.
Non, plutôt la gestion de l'eau, autour de l'eau.
La gestion autour de l'eau. C'est une très belle entreprise parce que il y a 130 magasins qui sont sous votre marque, dont une grande partie sont sous forme de franchise, mais enfin c'est votre marque exclusivement, et donc c'est vous qui leur permettez de vivre. C'est une entreprise qui a été créée en 1989, à Portet-sur-Garonne, donc il y a vraiment une entreprise régionale, dont vous avez repris la présidence en 2007. Vous avez au total 600 salariés qui dépendent de vous, 220 en direct, et puis les autres, c'est par le biais de la franchise. Mmh. Et vous êtes implanté sur toute la France, ce qui n'est pas courant non plus pour une PME de la région. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez même des établissements à Lille et dans l'Est de la France.
Aussi, oui.
À Brest aussi, voilà. Donc vraiment
on devrait ouvrir à Saint-Malo l'année prochaine, oui. Donc.
Et à Saint-Malo, aux quatre points cardinaux, sans oublier Paris, évidemment. Bref, voilà le panorama qui permet de comprendre toute la chance qu'on a de vous avoir là. Donc, je voudrais d'abord que vous me parliez un peu de la façon dont vous concevez la gestion d'une entreprise, vous qui, par ailleurs, avez une vie de catholique militant, je puis dire, c'est-à-dire qui ne cache pas sa foi. Comment vous abordez ces questions de gestion des entreprises?
Alors, ce que je vais vous dire, en fait, ce sont des éléments qui deviennent aujourd'hui un peu des lieux communs, qui l'étaient moins il y a quelques années. Attention de dire que je l'ai professé déjà, c'était l'entreprise est réellement, et ce n'est pas encore une fois qu'une expression littéraire, c'est on est vraiment centré autour de l'humain. C'est-à-dire que chez Iré Jardin, il y a d'une part un climat social qui est très bon, hein, ça c'est quand même important, c'est la première des bases, et deuxièmement, nous avons une volonté d'établir des relations, je dirais, très étroites entre tous les collaborateurs. Nous avons depuis longtemps, il faut savoir qu'en plus, quand on développe une entreprise par le biais de la franchise, les franchisés, au passage, s'ils vous rejoignent, évidemment, que pour que des franchisés restent avec vous, et quasiment tous les premiers franchisés qui nous ont rejoints à l'époque, ça remonte maintenant lors de la première ouverture en franchise, c'était en 2004, vous voyez, ça commence à faire un petit moment. Et lorsque ces franchisés restent avec vous, alors bien sûr qu'il y a la contrainte économique de base, hein, ils sont là pour vivre de leur activité, mais pour qu'ils restent aussi longtemps, c'est qu'ils doivent y trouver leur compte en termes de reconnaissance et d'appartenance à un groupe humain. Donc, si vous voulez, l'entreprise et donc les salariés du siège dans lequel donc je me situe ont toujours été orientés vers un service à ces magasins-là, à ces franchisés, parce qu'évidemment, on le dit tous les jours que bon, tout ce qu'on peut faire, c'est bien bon, mais pour que l'entreprise vive et prospère, c'est que ça se traduit dans le magasin, lorsque l'activité du magasin fonctionne et voilà, hein, que les ventes se font. Donc, si vous voulez, il y a par principe déjà une notion de service qui est innée. On peut pas, voilà. La centrale est là pour servir les magasins. Et évidemment, il peut toujours y avoir des échanges. Hein. Vous avez des franchisés qui, une fois en passant, vont râler. Mais globalement, il y a, aussi bien avec les franchisés qu'avec les collaborateurs, il y a une volonté de construire des relations humaines fortes. J'insiste beaucoup là-dessus parce que, vous voyez, quand les gens... Alors, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple peut-être un peu simpliste, mais quand il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent chez nous, il n'est pas rare qu'on doive leur dire au bout d'une semaine ou deux, mais tu sais... chez nous, les gens se disent bonjour. Alors, il ne s'agit pas de sauter, quand vous croisez quelqu'un dans le couloir, il ne s'agit pas de lui sauter au cou, hein, ce n'est pas le but. Hein, mais de lever les yeux et de montrer qu'on l'a reconnu et qu'on lui dit bonjour, c'est tout. Et c'est encore des choses qu'on est tenu de faire parfois. Et chez nous, ça fait partie des principes. C'est tout bête, celui-ci. Hein, Il y a des principes plus élaborés. Et je vais vous en donner un deuxième, puisque là, celui-ci, il est très récent. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec une des personnes qui s'occupe des ménages chez nous. On travaille avec une société de prestataires. Et elle me disait, donc c'était une dame, hein, elle me disait que, en clair pour nous... nous dire qu'elle appréciait la chose, le fait que tout le monde lui dise bonjour et au revoir. Donc je me dis, il y a encore des entreprises où parce qu'une personne se promène avec un balai à la main, les gens estiment que c'est pas nécessaire de, quand on la croise dans le couloir, de lui dire bonjour. Voilà. Donc toute cette qualité de relation humaine, et je pense que c'est une réalité, existe chez nous. Et après, de toute façon, on a intégré comme toutes les entreprises, mais aujourd'hui bon, on parle beaucoup de RSE, hein, ouais. Je pense que tout le monde fait la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise.
Et environnementale.
Et environnementale, voilà. Sociétale d'entreprise ou environnementale, ouais. Il y a plusieurs façons de traduire le RSE. C'est un concept fondamental, hein. Aujourd'hui je crois que tout le monde en est d'accord. La dimension donc sociale avant tout est très importante chez nous. Hein. On investit beaucoup. Alors vous savez qu'on est une entreprise de distribution, donc si vous voulez... On n'a pas, le loisir de développer un produit innovant, un robot de piscine qui tondrait la pelouse en même temps et qui passerait l'aspirateur dans la maison. Donc, on vend des produits que nos fournisseurs nous proposent. On essaie de définir avec eux aussi dans lesquels... Et donc, si vous voulez, la performance, parce qu'on travaille dans une entreprise, c'est bien de ça dont il s'agit, la performance commerciale vient clairement de la qualité des personnes. Donc, si vous n'avez pas les équipes, les personnes qui sont investies et qui portent avec une certaine fierté, puis même, affection, hein, leur métier auprès de leurs clients, ça ne fonctionne pas. Ouais. Voilà. Après, il y a toute une série de choses à faire, des formations, etc. On fait beaucoup de formations, énormément de formations. On a créé depuis longtemps un centre de formation interne. On a doublé depuis peu d'un centre de formation en e-learning aussi. Hein. On avait beaucoup de modules. Et aussi, depuis peu, on a rajouté à tout ça... On travaille avec pour ne pas la citer, Edflex, c'est une start-up qui amène les formations qui ne sont pas liées au métier, mais qui permettent aux gens d'être des acteurs de leur, sur le web, hein, grâce au digital, d'aller chercher toutes les formations qu'ils souhaitent complémentaires, et donc pour être un peu les acteurs de la formation. Voilà un peu le... Vous voyez, on essaie de tourner autour de tous ces éléments-là. Quoi.
Sur le plan du dialogue social, quelle est l'instance qui fonctionne? Parce que 220 salariés en direct, bon, donc vous avez forcément un comité d'entreprise.
Voilà, CSE, aujourd'hui, on appelle ça. Oui. Et on n'a qu'un comité d'entreprise. Alors, il s'avère que pour l'instant, bon, ça viendra probablement un jour, mais on n'a pas de syndicat. Donc, les collaborateurs n'ont pas manifesté le souhait d'avoir... Parce que c'est le CSE, enfin, le comité d'entreprise, pour parler...
Qui joue ce rôle-là de dialogue social.
Tout à fait, de dialogue social. Et on a là aussi des relations très, je pense, très empreintes de respect réciproque. Alors, ils jouent le rôle, hein, il faut... Alors, s'il n'y a pas de syndicat, c'est peut-être parce que l'écoute que nous avons, hein, que l'équipe dirigeante, dont moi-même avons avec... le comité d'entreprise est bien là. C'est-à-dire que, ils ont, lorsqu'ils expriment leur problématique ou leur difficulté, je crois pouvoir dire qu'ils sont pris en compte. Hein. C'est avec eux qu'on a rediscuté en septembre. On a fait comme tout le monde. On a réévalué un petit peu les salaires en septembre. Il a fallu le faire, hein, puisque malheureusement, l'inflation est arrivée. Voilà, c'est des choses qu'on a discuté avec eux. Et on a trouvé, assez facilement un accord, puisque, ils comprennent très bien à la fois les contraintes, et on l'a fait très rapidement, pratiquement avant que eux-mêmes commencent à émettre la demande. Pourquoi ? Parce que c'était normal. Donc, si vous voulez, ça facilite.
Il faut savoir anticiper ce qu'ont pas fait toutes les grandes entreprises.
Peut-être, oui, je pense.
Il y a des tensions aujourd'hui.
Je pense qu'il y a quelques erreurs de ce type-là qui ont dû être faites. Quand même, ouais.
Et au point de vue intéressement, participation, ce qui était là, au fond, le gaullisme social, mis
en
place.
Nous avons, je vous confirme, on a depuis très longtemps à la fois une participation, ça c'est une obligation légale, mais nous avons aussi mis en place un contrat d'intéressement, hein, lié aux résultats de l'entreprise. Et l'année dernière, pour rien vous citer, vous voyez, nos collaborateurs ont touché un peu plus de 2 mois de salaire en complémentaire grâce à... Voilà. Donc c'est, pour une entreprise comme la nôtre, c'est aussi assez... dans les grands groupes, ça se trouve beaucoup plus. Dans des entreprises, on est soit une grosse PME ou une petite ETI, hein, selon comment vous le définir. Ça existe, mais c'est moins courant. Et là, c'est quelque chose de très naturel et qui m'est toujours apparu comme une évidence.
Voilà. Vous êtes bien dans le... dans la ligne du gaullisme social.
Tout à fait. On a d'ailleurs été parmi les premiers à embrayer lorsque il y a eu la fameuse prime de partage de la valeur il y a deux ans qui depuis est reconduite. Hein. Donc voilà, on a pareil, on a essayé d'imaginer un dispositif pour accompagner les collaborateurs dans ce.
Alors, ça nous amène peut-être à élargir un peu notre propos sur un certain nombre de textes qui ont été produits par l'Église au fil des décennies, que l'on regroupe dans la doctrine sociale de l'Église. Et cette doctrine sociale, beaucoup de gens... disent, elle est un peu théorique, c'est difficile de vraiment la mettre en prise avec les réalités du quotidien. Les entreprises sont confrontées à des contraintes, à des impératifs qui fait qu'on n'est pas toujours en mesure de mettre en place tout le dialogue qui serait nécessaire. Il faut aller vite, etc. Vous, comment vous vous situez par rapport à ces textes produits par l'Église et notamment aux textes de Jean-Paul II ou de...
Alors, évidemment, je vais vous dire que lorsque j'arrive tous les matins en entreprise, je ne me réfère pas instinctivement à la doctrine sociale de l'Église, mais très clairement, elle fait partie du enfin, je trouve que la doctrine sociale de l'Église, est, pour ma part, je le trouve très moderne, d'une part, et parfaitement en lien avec ce que, pour le coup, avec ce que, même en élargissant à toutes les entreprises, aujourd'hui, on met en avant énormément de valeurs qui, pour ma part, sont... très en lien avec la doctrine sociale de l'Église. Donc on parle, alors évidemment, aujourd'hui on va parler de bien, alors quand on parle de dignité de la personne, qui est une des valeurs, un des principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, d'ailleurs qui est beaucoup plus large en fait même, qui empiète aussi sur le domaine privé, mais sur le domaine professionnel, aujourd'hui on parle de bienveillance par exemple dans l'entreprise. C'est un mot qui aujourd'hui est devenu très courant, et c'est exactement ça, hein, c'est-à-dire considérer les personnes, la partie, si vous voulez, solidarité, c'est du même acabit. Hein. Et la partie, d'ailleurs, il y a un des principes qui est le principe de subsidiarité. Alors moi, j'ai pour habitude de le résumer, parce qu'il est un peu complexe, ce principe à définir, comme étant, en fait, la capacité à permettre à chaque acteur d'avoir son autonomie de décision à son niveau. C'est un concept très... si vous prenez tous les livres de management d'aujourd'hui, oui, vous le trouvez partout. Il ne vous parle pas de subsidiarité, mais il vous parle de délégation, d'autonomie, de... Voilà, donc tous ces principes-là me paraissent, moi, parfaitement en ligne avec... après... La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est la mise en œuvre dans l'entreprise, c'est justement la qualité du dialogue social qui ne dépend pas que évidemment du dirigeant, qui dépend du dirigeant et aussi bien entendu des collaborateurs, ça c'est autre chose. Mais le fondement de cette doctrine sociale me paraît au contraire très tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, c'était extrêmement précurseur il y a une vingtaine ou une trentaine d'années où si vous parliez de bienveillance en entreprise, vous passiez pour...
Ouais.
Pour un type complètement has-been, hein.
Voilà. Voire paternaliste.
Paternaliste, voilà. Et puis,
voilà. Il y a aussi dans la doctrine sociale un intérêt pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mmh. Et l'égalité entre les hommes et les femmes, ça a souvent été un sujet compliqué, notamment sur l'égalité salariale. Chaque année, pour la journée de la femme, on nous ressort des chiffres qui nous disent que les femmes gagnent moins que les hommes. Bon, aujourd'hui, les mouvements féministes disent que tout ça, c'est à cause du patriarcat. Enfin, je ne vais pas repartir dans ces débats dont on est abreuvé, surabreuvé tous les jours. Mais c'est vrai que c'est une réalité difficile dans les entreprises, hein, que cette question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Comment vous situez là-dedans, vous ?
Alors, il y a au-delà de l'égalité salariale, c'est l'égalité, je dirais, de position aussi dans l'entreprise. Hein, c'est d'une part, chez nous, c'est pas toujours simple parce qu'on est sur un métier donc de conseil technique. Et donc, par exemple, si vous prenez dans nos magasins aujourd'hui sur 15 magasins propres. On a enfin eu la chance, j'ai envie de dire ça, il y a un an, de pouvoir intégrer comme responsable une femme donc, qui s'occupe de nos 15 magasins. Voilà. Mais globalement, on est sur un métier qui est, à tort d'ailleurs, puisque les femmes réussissent très bien dans ce type de métier aussi, mais à tort encore vu, y compris par les clients, est encore vu un petit peu un domaine réservé de conseils techniques. Donc voilà. Donc déjà, il y a cette difficulté-là, donc qu'il faut essayer de contrebalancer. Au siège, c'est beaucoup plus simple. Au siège, il y a des femmes qui ont toutes les fonctions. Alors, c'est vrai que si vous prenez notre COMEX, enfin, un comité de direction, oui, il y a, On est 6 avec juste une femme. Et il y en a, fort heureusement, une 7e qui va bientôt nous rejoindre. Donc, la proportion sera moins. Mais c'est compliqué parce que lorsque vous faites un recrutement, vous avez beaucoup moins de sollicitations, y compris sur le marché. Et ça, est-ce que c'est l'historique? C'est aussi. Peut-être, sans doute, parce que les femmes, malheureusement, ont cette dualité à gérer, de carrière et de mère de famille. On a beaucoup moins, y compris dans des recrutements, on a beaucoup moins sur certains postes de demandes. Alors, les grands groupes peuvent se permettre, ils brassent énormément de gens, ils peuvent se permettre, peut-être plus facilement. Donc, nous, on essaie de le faire. On essaie de le faire. Sur la partie égalité salariale, là, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Soit sur la partie à poste identique, à salaire identique, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais franchement, chez nous, ce n'est pas un sujet. C'est plutôt, encore une fois, comment peut-on faire? Alors, je peux vous dire, pour être tout à fait honnête aussi, pour le coup, quand je suis rentré, donc moi je me suis associé avec le fondateur en 2002, j'étais un type très bien, mais pour le coup c'était, pour le coup dans un management très partenariste, il devait y avoir 99% de bonhommes. Hein. Et j'ai féminisé aujourd'hui au siège, je pense qu'il y a 50% des effectifs, voire 60% ce sont des femmes. Voilà.
Mais la question salariale, c'est vrai qu'elle est théoriquement réglée par le droit du travail, puisqu'il y a une règle qui dit travail égal, salaire égal. Oui. Bon, donc ça, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises arrivent à peu près à montrer qu'ils respectent cet aspect-là. La difficulté, c'est les fameux plafonds de verre dans les carrières.
C'est vrai.
Effectivement, pour des raisons X et Y, les femmes, par moment, soit peuvent dire, vous voyez, nous, on n'a jamais les promotions. Et donc, donc ça, c'est une difficulté, je pense, à laquelle toutes les entreprises, y compris les entreprises publiques, d'ailleurs, qui font pas mieux que le privé là-dedans, sont confrontées parce que, comme vous l'avez dit, il y a souvent des choses qui font que les femmes sont peut-être, sur une période de leur vie, moins présentes au moment où les carrières se décident.
C'est vrai. Je pense que ça joue encore. Hein. J'ai cinq filles et un garçon. Donc, vous voyez, donc je suis assez concerné par la question directement. Et j'ai deux de mes filles qui sont mariées. Et les deux doivent gérer cette dualité. Hein. Ouais. Mon aîné a trois enfants, c'est arrêté trois fois. Et je sais pas comment ça va. Voilà, ça peut fonctionner dans à laver, ça rentre en aide. Voilà, donc je comprends très bien que c'est pas quelque chose de toujours simple à gérer.
Bien, je voudrais, si vous voulez, dans le temps qui nous reste, qu'on passe à un autre sujet qui est une autre facette de votre personnalité qui est très intéressante aussi, c'est que vous êtes membre de l'Ordre de Malte sur la Haute-Garonne. L'Ordre de Malte est un ordre catholique qui est rattaché au Vatican. Je pense que beaucoup d'auditeurs ne savent peut-être pas précisément quelles sont ses missions, comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, donc pour partir de la Haute-Garonne, donc la délégation de Haute-Garonne, ça s'appelle comme ça, elle donc est rattachée à un siège parisien qui est l'Ordre de Malte-France. Après, effectivement, vous avez le niveau, on va dire, supérieur, qui est notamment avec l'ordre, la partie de l'ordre supérieur est à Rome. Mais en ce qui concerne l'activité, on va dire, de associative, caritative, elle est donc gérée par l'Ordre de Malte-France et donc qui a des délégations des associations, en quelque sorte, dans chaque département.
Dans chaque département?
Alors, donc, quasiment, alors je dis chaque, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quelques départements, notamment les départements très ruraux, où il y a encore quelques trous dans la raquette, comme on dit aujourd'hui. Mais globalement, dans toutes les villes, évidemment, c'est là où il y a le plus de besoins, très souvent, il y a toujours une délégation de l'Ordre de Malte, qui fonctionne essentiellement avec des bénévoles, sur la partie départementale. Il y a donc un siège avec des salariés, ça va de soi. L'Ordre de Malte-France, c'est à peu près 2000 salariés, parce qu'il y a aussi une activité, il y a aussi des établissements médico-sociaux, ce qui crée un nombre de salariés importants. Là, ce sont forcément des salariés. Et après, il y a, sur l'Ordre de Malte-France, environ 12 000 bénévoles. Donc, l'émission de l'Ordre de Malte, c'est comme vous l'avez dit, une association catholique qui a pour mission de venir au secours des plus faibles et des plus démunis. Donc, ça se traduit par, d'une part, ce qu'on appelle des maraudes. Maraudes, c'est donc les gens dont on en ville, notamment le soir. Et donc, le but étant. Alors, il y a les maraudes pour apporter des couvertures, de la nourriture, etc. aux gens qui se retrouvent dans la rue, pour éventuellement ceux qui sont vraiment en difficulté, les chercher à leur trouver une place d'hébergement, etc. Il y a aussi les petits déjeuners du dimanche matin, qui se passent d'ailleurs sur le parvis de la cathédrale de Saint-Étienne, où là, les gens ont l'habitude, les gens de l'SDF, pour parler, ont l'habitude de venir prendre un café. Et c'est vraiment une des caractéristiques de l'Ordre de Malte, c'est on n'est pas là que uniquement pour les nourrir ou leur donner une boisson chaude. Hein. C'est aussi de voir en regard Et c'est ça, c'est vraiment une valeur forte de l'Ordre de Malte. Les autres associations font aussi des très belles choses, mais notre un de nos carimes, c'est vraiment d'avoir un regard, comment dire, empreint de solidarité et puis de un regard chrétien sur ces personnes-là, et donc d'échanger avec eux et de passer un moment avec eux, d'échanger et par exemple ceux qui viennent tous les dimanches matin, on finit alors par les connaître et voilà, on a presque plaisir à les revoir. Hein, voilà. Ouais. Donc cette dimension-là, il y a donc cette activité-là, il y a une activité aussi traditionnelle, très ancienne de l'Ordre de Malte qui est le secourisme. Hein, qui permet évidemment d'une part de répondre dans d'éventuels problèmes sinistres très importants, mais en général, fort heureusement c'est plus assez rare, en général c'est plutôt d'organiser soit des postes de sécurité dans les grandes manifestations et des formations, du type formation au premier secours, etc. Voilà. Donc il y a toutes ces activités-là, avec en parallèle une activité qui est assez connue, c'est la quête, puisque donc après il y a l'Ordre de Malte, on va dire l'activité internationale, où toutes les derniers week-ends de janvier, il y a ce qu'on appelle les journées mondiales de la lèpre, hein, et donc où on organise des quêtes, généralement autour à la sortie des paroisses, avec une autre association qui est Rolf Olro aussi, hein, qui est très connue aussi pour cette action-là, et pour donc emmener des fonds dans les dispensaires qui sont notamment en Afrique, où malheureusement, là, dans ces pays-là, l'EP est toujours existante. Voilà à peu près. Donc, en fait, si vous voulez, ça part. Après, il y a aussi, par exemple, on a organisé des collectes. Lorsqu'il y a eu, lors de la période du Covid, on a eu l'occasion d'organiser des collectes pour les étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur job et qui se sont retrouvés, leur petit job, qui se sont retrouvés très démunis. Donc, on a réalisé des collectes alimentaires. On allait à l'université pour leur donner, pour apporter des... Voilà, certains se sont retrouvés... Voilà. Vous voyez, on répond, en fait, à tous ces types de... On a aussi une activité maison de retraite, une visite de maison de retraite. Voilà. Le but, c'est d'être...
C'est combien de participants à Toulouse, au Dégarou?
Toulouse, on est clairement 200 bénévoles.
200 bénévoles sur Toulouse uniquement.
Sur Toulouse, il y a un petit peu dans les campagnes, un petit peu notamment à...
Saint-Gaudens.
Voilà, merci. Un petit peu à Saint-Gaudens, mais la majeure partie de notre action se situe à Toulouse.
Très bien. Eh bien, écoutez, Yves Alibert, merci pour toutes ces précisions. Merci encore d'être venu nous dire comment... un catholique peut gérer une entreprise de 600 qui fait vivre 600 familles. C'est pas rien quand même dans un dialogue social qui s'aligne plus ou moins, mais plutôt plus que moins sur la doctrine de l'Église.
Exactement.
Merci pour ce témoignage, Yves Alibert, et peut-être à bientôt.
Merci beaucoup. Non, pas.